boîte, Cédric Adrovert.
Sur tous les bureaux du monde entier, il y a un objet qui est en partie né à Haute-Rive dans l'entreprise qui s'appelle aujourd'hui Siposa. Au début des années 80, avec le MIT à Boston et le PFL, la société travaille sur l'industrialisation de la première souris d'ordinateur. Eh oui, elle a aussi inventé les premières cartes à puces. C'est donc une société chargée d'histoire qui est au centre de sortie de boîte ce soir. Mais on va la voir d'un angle plus récent, comme le dit notre invité de ce soir en parlant de toute autre chose. Ce que je ne peux pas changer ne me touche pas beaucoup. Orienté avenir, orienté technique aussi. Quand je l'ai rencontré un vendredi en fin de journée, on a tout de suite commencé par la visite de l'usine pendant qu'il y a encore du monde. Malgré le costume, il est à l'aise dans l'atelier. Il m'explique les machines. Avec enthousiasme, il me décrit chaque étape. On sent qu'il les connaît dans les détails. Oui, c'est un patron qui vient de la technique. Il sait de quoi il parle. On passe dans le bureau technique, on interrompt une réunion, haussant les geeks un peu face à un problème. Et c'est justement le corps du métier de notre invité, un peu comme Wolf dans Pulp Fiction, il résout des problèmes. Pas le même genre de problème, là la solution est souvent une machine. Il est là pour nous en parler jusqu'à 19h. Bonsoir Jürgen Hofer.
Bonsoir.
Vous êtes le CEO de Siposa, une entreprise spécialisée dans l'automation. On va en parler largement ce soir. Avant ça, peut-être un mot sur vous, votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à diriger aujourd'hui cette société ?
Donc, de base, une formation technique. Et puis, j'ai fait 17 ans chez Ismeca, dans la fabrication de machines. Et puis, j'ai été intéressé par le challenge de Siposa, qui était une entreprise également qui fabrique des machines, mais à taille beaucoup plus humaine, où les équipes travaillent ensemble, une entreprise d'une trentaine de personnes.
C'est vrai que vous êtes 30, petite équipe, tout le monde se tutoie. C'est quelque chose que vous cultivez, cette proximité ?
Je pense que c'est vraiment une culture d'entreprise d'être proche des gens qui font les projets. C'est également une façon très naturelle de quand on veut ensemble faire un projet qu'on mélange différents métiers. Les gens se retrouvent pour solutionner ensemble des problèmes. Quand on dit ensemble, il y a la mécanique, le soft, etc. Donc différentes cultures qui doivent collaborer pour arriver au succès du projet.
C'est vrai que c'est souvent dans les entreprises, il y a plusieurs secteurs, il y a un peu des guerres entre secteurs qui ne s'aiment pas, la recherche et le développement, les RH, etc. Chez vous, ça n'existe pas du tout, ça ?
Oh, si.
Ah oui, quand même. on se rassure.
Non, les guerres de clochers sont bien sûr toujours présentes. Je veux dire, les mécanos contre les électros, le bureau technique contre les gens qui mettent les machines au point, mais c'est très constructif dans la mesure où ils sont ensemble, à la même place, il n'y a qu'une porte à traverser, et puis ils communiquent ensemble ce que le géniteur, qui est la personne du bureau technique, a essayé de créer, et puis le metteur au point qui essaie de donner vie à ce que la personne du bureau technique a fait, et c'est dans une cordiale entente qui amène le projet au bout.
La communication, c'est ce qui permet justement de passer outre ces différends et ces tensions.
La communication dans des machines spéciales, dans des domaines pointus, est absolument impérative, oui.
Il y a un autre aspect intéressant dans la gestion, c'est la transparence. Vous m'avez dit en préparant l'émission que régulièrement, vous convoquez tout le monde et vous leur donnez les chiffres de l'entreprise sans rien cacher, de manière absolument transparente. Ce n'est pas forcément courant. Dans quel but vous faites ça ?
Notre société est principalement drivée par des projets. Des projets, c'est finalement amener une machine, un projet, comme son nom l'indique, à une certaine date pour pouvoir le livrer avec des chiffres à tenir au niveau temps de montage, au niveau temps de développement. Donc, il est tout à fait logique également que l'on partage les succès et les erreurs qu'on fait pour voir les répercussions que ça a sur la vie de la société.
Et sans craindre que parfois, si les chiffres sont un peu moins bons pendant une période, ça mette de la crainte ou de la peur. Vous ne cherchez pas à protéger les gens face aux bonnes, mais aussi aux mauvaises nouvelles parfois.
De temps en temps, il faut bien sûr être un petit peu homéopathique.
Oui. Et puis mettre les formes.
Et puis ne pas être trop direct sur tout. Mais en même temps, c'est tous des ingénieurs qui voient très bien quand un projet réussit ou quand il bat de l'aile et puis que les chiffres vont être dans le rouge. En gros, quand une machine est livrée à l'heure et qu'elle fonctionne bien, les chiffres sont bien. Et puis s'il y a des problèmes à la mise au point, les chiffres sont moins bien. C'est relativement facile.
Un dernier mot sur votre parcours par rapport à l'aspect technique. Vous venez de la technique, on l'a dit. Après, aujourd'hui, vous dirigez l'entreprise. Il y a un aspect vente, un aspect gestion. Vous l'avez appris comment, ça, sur le tas ?
Vraiment sur le tas, oui. Avec les différentes expériences que j'ai eues auparavant dans des entreprises qui faisaient également des machines d'assemblage. Donc, je me suis gentiment spécialisé dans le service après-vente, dans la vente, voilà.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît ? Vous devez forcément toucher à tout dans une entreprise de cette taille. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Ça reste l'aspect technique ?
L'aspect technique intégré, je dirais, c'est plutôt l'aspect business, c'est-à-dire le contact avec les marchés, les clients, et puis de trouver des solutions avec les ingénieurs qui sont dans l'usine, dans la mesure où je pense pas que c'est moi qui vais trouver beaucoup de solutions techniques. Donc, faut pas se leurrer.
Alors parlons-en de ce savoir-faire. Siposa est spécialisé, je cite votre site internet, dans l'automation modulaire. Si on devait expliquer à des enfants ce que c'est l'automation modulaire, bon, pas forcément à des enfants, mais si on devait vraiment vulgariser, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'automation, dans notre cas, c'est fabriquer des machines. Donc, des machines qui font de l'assemblage. Si on veut, c'est deux, trois pièces d'un stylo, d'une montre qui sont assemblées à la main. Puis quelqu'un vient chez nous et nous demande de résoudre un problème, comme vous avez dit avant, de dire bon, ben, j'aimerais bien que tu puisses me monter ça en 30 secondes et puis amener ça en automatique et puis essayer de me construire une machine qui fait ça. Et puis,
c'est toujours des actions qui sont faites à la main, qui sont laborieuses et que vous cherchez à rendre plus rapide et automatique, c'est ça ?
En règle générale, c'est ça, oui.
Alors là, dans l'exemple,
il arrive également, bien sûr, que ce sont des procédés qui sont déjà automatisés, mais avec de vieilles machines. Et puis, on vient avec de nouvelles technologies, avec plus de traçabilité des produits, de travailler dans ce domaine, parce que c'est toujours plus. On va toujours vers des mondes qui sont de plus en plus suivis, avec un suivi informatique de qu'est-ce qui a été produit quand, etc., etc., dans l'horlogerie comme dans le médical.
Alors là, vous parlez d'horlogerie et de médical, j'allais vous demander, au-delà de l'exemple des stylos, qui sont réellement vos clients, donc c'est l'horlogerie et le médical essentiellement ?
C'est l'horlogerie, le médical et le semi-conducteur.
Et au niveau géographique, vos clients, ils sont où ?
Alors, relativement, logiquement, tout ce qui est automation dans l'horlogerie se trouve en Suisse. Donc, c'est les grandes manufactures horlogères, dont je ne pourrais pas citer les noms.
Oui, il y a une confidentialité qui est importante chez vous, on en parlera.
Et ce qui est semi-conducteur se trouve plutôt du côté asiatique. Et la partie médicale se trouve, pour les projets de machines spéciales, se trouve plutôt en Suisse, en Europe.
Les semi-conducteurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les nouvelles technologies ?
Alors, semi-conducteur, à la base, c'est tout ce qui est électronique, les composants électroniques que vous trouvez dans vos smartphones, etc. Donc, la fabrication et l'assemblage de ces éléments électroniques.
Pour mieux comprendre, on va se rendre dans vos locaux à Haute-Rive. Vous avez reçu Joël Picromain. On vous retrouve tous les deux plantés devant une machine.
Sortie de boîte.
Donc les petites pièces que l'on voit ici dans ces petites palettes, c'est un balancier avec des écrous. Et la machine assemble ces écrous sur les balanciers en contrôlant la force et la position avec de la vision, donc avec des caméras.
Donc c'est la caméra qui va remplacer l'œil de l'horloger ?
Qui va remplacer l'œil de l'horloger et puis qui va le mettre exactement la bonne position avec également la main de l'horloger, quand on dit un contrôle de force, il faut le visser jusqu'à telle ou telle force. Ouais.
L'assemblage est automatisé et puis tout est informatisé finalement.
Tout est automatisé et informatisé. La problématique que le client nous a posée, c'est finalement, est-ce que tu peux me monter ces petits écrous qu'on voit là, à l'intérieur de ces balanciers ? Et puis, il faudrait me faire ça avec une cadence de 6 pièces par minute. Donc là, on voit, ou plutôt on entend, la machine qui prend une pièce, puis après qui va la poser sur la table. Vous voyez également là les caméras, où on va prendre la pièce. C'est des petites pièces sur les modules feed, qui sont des plateaux vibrants, où on reconnaît avec la caméra où sont les pièces. Et puis il y a une petite tête qui va prendre ça, qui va visser le composant à l'intérieur du balancier.
Donc ça veut dire que ici vous l'avez conçue, construite, testée et puis ajustée, parce que il faut avec ces caméras puis avec les écrans qui sont à côté de la machine, on va pouvoir ajuster l'assemblage de ces pièces. J'ai compris.
Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous mettre au point, c'est-à-dire qu'une fois que la machine elle a tout ce qu'il faut. Il faut vraiment l'ajuster finement pour qu'elle corresponde aux spécifications que le client a demandées. Et ça peut être pour de la machine spéciale un gros travail qui peut durer 2-3 mois pour faire la mise au point d'une pièce complexe.
Tous les domaines dans lesquels vous travaillez, on a vu qu'il y en avait plusieurs, que c'était assez différent. Tout le monde travaille finalement au même endroit ?
Oui, tout le monde travaille au même endroit, ou presque. C'est-à-dire qu'on a le grand atelier, on a l'assemblage des machines. Et en bout d'atelier, on pourra y jeter un coup d'œil par la suite. Vous avez les bureaux techniques, donc les créateurs des machines, qui sont en bout d'atelier, de telle manière à ce que les gens qui montent les machines puissent aller discuter sur qu'est-ce que le constructeur pensait faire, comment ça devrait marcher par rapport à ce qu'ils ont pensé, pour qu'il y ait un échange qui est direct. C'est un avantage qui est énorme par rapport à une grande entreprise, par exemple, où vous avez les concepteurs qui sont quelque part dans un coin avec... sous une cloche avec des toiles d'araignée. Là, il y a vraiment le contact qui est direct, où les machines sont sans cesse discutées, améliorées, etc.
Sortie de boîte.
Une équipe donc qui se côtoie, qui discute. On est de retour ici dans le studio à Marin avec Jürg Neufer, notre invité, le patron de Siposa. En visitant l'usine, on s'est rendu compte que les gens étaient relativement jeunes, une trentaine d'années. Beaucoup, cette jeunesse, c'est une envie de votre part de recruter des gens jeunes, c'est plus dynamique. Il y a quelque chose derrière ça ou c'est un concours de circonstances ?
C'est un peu les deux, je pense, mais forcément quand on participe à des nouveaux produits, à l'innovation, des choses assez complexes, forcément on tombe sur de jeunes ingénieurs qui sont parfaitement formés et qui ont envie de renouveler de nouveaux challenges tous les jours et de prendre de nouveaux défis, ce qui est vraiment une des bonnes caractéristiques. Et puis on trouve aussi les formations de ces personnes dans la région.
Un tiers des employés sont dans le bureau technique, donc ça doit brasser des idées à tout va. Comment est-ce qu'on coordonne, on gère ça pour ne pas partir dans tous les sens ?
Pour ne pas partir dans tous les sens, il y a quand même un business plan, des idées qu'on doit suivre pour aller dans une certaine direction et ne pas trop se dissiper. Néanmoins, c'est quand même relativement naturel dans la mesure où, encore une fois, c'est géré par des projets. Et les projets ne sont pas des projets fous qui devraient être finis dans 26 ans. C'est un projet qui doit être terminé, le bureau technique, dans 3 mois, la machine finie dans 6 mois, et puis la mise au point dans 9 mois. Donc il y a des délais qui sont très très précis, puis on a pas trop le temps de vagabonder et puis d'errer au milieu de tout ça.
Des projets avec des délais relativement serrés, aussi un coût très élevé. Hein. Ces machines valent plusieurs centaines de milliers de francs. Ça implique quand même une grosse pression. Là aussi, c'est par l'anticipation, le calendrier qu'on peut gérer cette pression.
Alors on essaie d'anticiper au maximum les problèmes à résoudre, en essayant de les résoudre au départ, au moment de faire l'offre. On demande des pièces aux clients, on essaie de voir comment ce qui se comporte sur un plateau vibrant, comment est-ce qu'on arrive à les prendre, comment est-ce qu'on arrive à les analyser par de la vision, est-ce qu'ils brillent, etc., quel type d'éclairage il faut, de telle manière à ce que lorsqu'on réalise la machine, on ait le moins de surprises possible.
Ça, c'est donc en théorie. En pratique, ça se passe comme ça.
En pratique, les problèmes sont toujours là. Jamais où on pense.
Évidemment. Au niveau du marché, dans un secteur comme celui-ci, comment est-ce que vous prospectez ? Sur quoi se fait la différence ? Parce que vous avez des concurrents qui sont en Asie, qui ont forcément des coûts de production, on imagine, en tout cas un peu plus faibles. Sur quoi comment vous tirez votre épingle du jeu ?
Alors, si on prend l'exemple des machines pour le semi-conducteur qu'on produit pour l'Asie ou les États-Unis, là, la différence, elle se fait beaucoup. On vient, par exemple, de développer une lampe à LED pour insoler des circuits.
Insoler, ça veut dire?
Insoler, ça veut dire créer les pistes sur le circuit imprimé ou sur le circuit intégré. Et puis là, cette innovation que sont les lampes à LED nous amène dans un marché qui est extrêmement intéressé par ce type de trouvailles, parce qu'il y a bien sûr beaucoup moins de consommation d'énergie, beaucoup moins de température dissipée. Donc même dans les marchés asiatiques, c'est quand même la qualité suisse et la précision et l'innovation qui va faire la différence par rapport à des concurrents qui peuvent être chinois, asiatiques ou européens.
La précision, justement, dans la région, on connaît bien. Hein, vous dites qu'on est des... Quelle est l'expression exacte ? Des chatouilleurs de microns. Voilà, c'est comme ça que vous...
Il y a même d'autres expressions, oui.
Ouais. ça vous apporte vraiment une plus-value par rapport à la concurrence internationale, ce côté plus que précis, extrêmement précis.
Alors, définitivement, la précision qui est dans l'ADN de notre région fait vraiment la différence et fait que l'on puisse vendre des machines assez complexes avec quand même des coûts de fabrication qui sont relativement élevés. Les gens ne vont pas venir en Suisse pour acheter des machines qu'ils peuvent trouver pour deux fois moins cher, pour assembler deux choses faciles à faire juste la part d'à côté. Donc, ce qui fait définitivement la différence, c'est la technologie et la précision.
Et l'innovation, vous en parliez tout à l'heure, et notamment cet exemple de LED. L'innovation, c'est aussi quelque chose qui fait partie du cœur de la société. Comment on la stimule ? C'est par des clients qui vous proposent des projets un peu fous qu'on va se dire, bah tiens, allons là, ou bien parfois vous réunissez et vous cherchez, tiens, sur quoi on pourrait innover cette année ? Comment ça fonctionne ? Comment ça se stimule ?
On est quand même une société qui n'est pas très très grande, donc on travaille très très près des clients. Donc on discute avec des grands clients qui nous exposent leurs problèmes qu'ils n'ont pas encore résolus, les choses qu'ils aimeraient bien faire, des fois des projets un petit peu fous, mais qui ont de l'avenir, et puis on essaie de trouver là au travers des projets intéressants, des problèmes à résoudre qui pourraient pas seulement se faire une fois, et puis de temps en temps on trouve quelque chose qui est très intéressant, qui nous différencie des autres, puis de temps en temps c'est un mouton à cinq pattes qu'on aurait mieux fait de pas faire, mais enfin le risque fait aussi partie de ce métier.
Aujourd'hui, la crise se fait sentir dans l'horlogerie, chez vous aussi, il y a une diminution du côté horloger, mais vous êtes aussi actif dans les semi-conducteurs, la joaillerie et le médical. Aujourd'hui, on peut dire que ces autres secteurs compensent la baisse dans l'horlogerie, cette diversification, elle vous aide à supporter la crise ?
Alors, elle ne compense pas totalement la crise horlogère, parce que la part de gâteau de l'horlogerie est importante chez nous. Mais on a en grande partie compensé les machines que l'on produit pour l'horlogerie par des machines dans le semi-conducteur, dans le médical et dans l'horlogerie, avec de nouveaux débouchés qui semblent très intéressants.
On vous a entendu dans le reportage tout à l'heure parler de l'horloger, d'une machine qui remplace l'œil et la main de l'horloger. Vous pensez qu'un jour tout sera automatisable ? Difficile comme question.
Oui, tout ce qui est fabriqué en grande quantité, quand il y a grande quantité à quelques dizaines, centaines de milliers de pièces, sera automatisé définitivement. Par contre, il restera toujours les métiers d'art où il y a des pièces uniques ou des pièces à 10, 20 unités qui sont réalisées où l'automation n'est pas recherchée.
Justement, on va parler d'une pièce rare. On est au mois de décembre, hein, le 1er décembre. Vous avez déjà fait vos cadeaux de Noël d'ailleurs ?
Ah, on est au mois de décembre,
non ? Pas encore ? Écoutez, vous tombez bien parce que Marie-Lise Saillard a justement une suggestion à nous faire dans sa chronique horlogère.
Pile à l'heure.
oui, les amis, Noël approche. Il est temps de penser aux cadeaux. Si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à mettre dans le cadeau de quelqu'un que vous aimez fort, 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 vous pourriez par exemple lui acheter une montre de luxe. Alors évidemment, la facilité, c'est d'aller dans une bijouterie et de prendre le modèle sympa que vous avez vu en vitrine. Oui, mais il n'y a aucune exclusivité là-dedans. Si vous optiez plutôt pour la création d'un horlogénial Vianney Alter, il a reçu le prix du meilleur horloger concepteur au Grand Prix d'horlogerie de Genève en 2011. Cette année, il a reçu le prix Gaïa, dont nous avons déjà parlé dans Pile à l'heure, souvenez-vous. Donc, pour la personne que vous aimez fort, 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 il y a la montre Deep Space Tourbillon. C'est son papa, Vianney Alter, qui nous en parle.
C'est une montre avec la complication d'un tourbillon, mais sur trois axes. C'est vrai que le verre est extrêmement bombé, hein. C'est comme un dôme, c'est comme presque une station spatiale. Et je pense qu'à l'intérieur, ça fait un peu comme une cathédrale. Le balancier, par rapport à la dimension des volumes de la montre en elle-même, ça donne cette particularité.
La Deep Space Tourbillon, c'est une grosse montre. Vianney Alter l'a imaginée après une pause créative qui a duré 6 ans. Et c'est assez facile, vu le nom du produit, de savoir où l'horloger a puisé son inspiration.
Elle est, je dirais, plus moderne que les autres pièces que j'avais faites dans son style. Elle représente aussi une vision plus futuristique dans son design et dans l'idée de sa conception, puisqu'elle est inspirée, je dirais, de la science-fiction, mais aussi de l'aventure humaine, spatiale, du rêve en dehors de notre état, de notre planète et de notre condition. Elle est plus d'une vision d'avenir que les autres produits qui étaient plus d'une vision d'héritage horloger.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire que pour ce cadeau de Noël que vous pourriez faire à quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, beaucoup, beaucoup et à qui vous voulez faire très, très, très plaisir, il vous faudra tout de même débourser 200 000 francs.
Pile à l'heure.
Une montre que vous pouvez voir de vos propres yeux sur notre site internet, mais qu'on ne vous offrira pas, excusez-nous. Pas de Père Noël dans notre studio, mais un directeur, Jürg Neufer, de la société Siposa, spécialisée dans l'automation. Quand vous entendez parler ou quand vous voyez une montre ou de complications comme ça, est-ce que vous imaginez comment on pourrait automatiser les choses ? Est-ce qu'il y a des déformations professionnelles dans votre métier ?
Il y a des déformations professionnelles, bien sûr, mais je pense que je ne suis pas assez horloger pour pouvoir...
La magie reste là quand même.
J'aime bien regarder les belles montres. Ça, c'est peut-être un défaut professionnel. Mais alors, imaginez tout ce qu'on pourrait automatiser. C'est plutôt en traversant un atelier d'une manufacture.
J'ai une dernière question. Après, on arrivera au terme de cette émission. Mais on entend souvent parler de machines intelligentes. Vous en parlez aussi de temps en temps. C'est un concept qui existe chez vous. C'est quoi une machine intelligente ?
Machine intelligente. Well.
Vous avez 5 secondes, non ?
5 secondes,
non,
d'accord.
Non, je plaisante.
Non, disons, aujourd'hui, on va quand même dans des mondes qui ont besoin de toujours plus de flexibilité et puis qui ont besoin de plus en plus d'interaction. Les visions, par exemple, deviennent de plus en plus intelligentes, c'est-à-dire qu'elles apprennent elles-mêmes qu'est-ce qu'elles devraient réaliser. Nous, on va un petit peu dans ce domaine-là, mais on est également quand même à la base des intégrateurs, c'est-à-dire des gens qui font de la mécanique, qui font du soft, c'est-à-dire la machine fait ça, puis ça, puis ça, et puis s'il arrive quelque chose, elle fait ça, mais qui sont des choses qui sont programmées en dur et où l'intelligence artificielle commence à voir le jour avec la vision.
L'intelligence reste dans le cerveau des ingénieurs.
Principalement, oui.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité ce soir. Un entretien que vous retrouverez d'ici peu sur notre site internet avec des photos de la société. Bonne soirée à vous, Jürg Neufer.
Bonne soirée à vous.
On parlait tout à l'heure de chatouiller les microns. Notre invité la semaine prochaine se fait justement traiter de pinailleur de microns parfois. Nicolas Thibaudot est CEO de MPS, Micro Précision Système SA. Il viendra nous parler de sa société qui produit entre autres des billes des centaines de fois plus petites qu'un cheveu qu'on ne coupera pas en quatre. Promis, bonne soirée, à la semaine prochaine.
Sortie de boîte.